Je voudrais parler ce matin des pensées dans la méditation. Hier soir, j'ai évoqué un aspect. Quand les pensées récurrentes, parfois sans sens particulier, surgissent et qu'elles peuvent être un signe d'une manière de ne pas être présent. Stratégie pour ne pas être là. Mais ça ne veut pas dire que toutes pensées qui surgissent ont cette même intention sous-jacente. Je pourrais m'asseoir, commencer l'assise et peut-être que quelque chose m'a irrité. Je prends un exemple tout simple, je ne dis pas que c'est le cas, peut-être qu'il n'y avait plus de café quand je voulais en boire. Donc je viens, je m'assieds et puis il y a cette irritation, mais quand même, il devrait faire plus de café, je devrais aller plus tôt. Voilà. Donc là, c'est pas la motivation n'est pas tellement l'évitement, elle est motivée par une émotion qu'elle a. Donc de considérer comme ceci, comme un moyen d'évitement, serait peu judicieux, serait pas une manière d'aborder la pensée pour l'inclure dans la méditation. Quelquefois, la source qui motive les pensées est plus lointaine, plus vague. Mais on peut reconnaître dans le ton de la pensée, ou dans son contenu, qu'elle est liée à une émotion. L'irritation, la tristesse, la culpabilité, le regret, le remords. Se peut que les pensées aient cet aspect-là. À ce moment-là, il est judicieux d'être en contact avec l'émotion sous-jacente. Même pour l'exemple du café, donc un exemple simple, je pourrais me dire, tiens, dans le fond, je suis irrité. Et là, j'essaie d'être en contact avec l'irritation et je me rends compte que mon discours sur venir avant, etc., n'a plus d'importance. Je suis en contact avec ce qui est là vraiment. Le réfectoire du matin n'est plus là, mais mon irritation est là, c'est une expérience que je fais et que je peux intégrer. Comment est-ce que c'est qu'un esprit irrité? Est-ce que je peux être présent à ceci? Donc lorsque les pensées ont une teinte particulière, émotionnelle, là il est judicieux d'essayer d'être en contact, de s'ouvrir à l'émotion. S'ouvrir veut dire l'éprouver. Est-ce que je peux l'éprouver sans réagir, sans vouloir immédiatement la manipuler ou l'éliminer? Et on se rendra compte à ce moment-là que ce besoin d'alimenter ceci pour rappeler l'émotion disparaît, que je suis en contact ici, dans le présent, avec l'émotion. Une des manières d'aborder la pensée quand elles sont de ce type-là. Donc les pensées ne sont pas un défaut, quelque chose qu'il s'agirait d'éliminer pour pouvoir méditer. Le problème, il est par rapport à la confusion dans laquelle on est par rapport aux émotions, par rapport on est aux pensées. Dans un premier temps, on peut déjà reconnaître qu'on est en train de penser. Par rapport à être perdu dans la pensée, prendre conscience, tiens, je suis en train de penser ou de réfléchir, il y a déjà une manière de revenir à soi. Alors soit on peut revenir au point d'ancrage, dans l'abdomen, la poitrine, dans les mains ou dans le corps tout entier. Quelquefois c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que c'est judicieux. Mais on peut aussi prendre conscience de ce qu'est la pensée, notamment si elle porte sur le passé ou sur le futur. Cette pensée du passé qui surgit en cet instant, ou cette anticipation qui surgit en cet instant, prendre conscience de ceci est déjà un grand élément de sagesse. plutôt de prendre cette image du passé comme réelle, comme une autre place, un autre temps, je me rends compte que c'est seulement quelque chose qui surgit dans cet instant, une représentation qui surgit en cet instant, ici et maintenant. De même pour l'anticipation du futur. Ça surgit en cet instant, ici et maintenant. Quand on peut replacer la pensée dans ce contexte de présence, à ce moment-là, la confusion qui lui était attachée disparaît. Ou quelquefois, c'est un commentaire sur l'expérience présente. C'est bien, c'est pas bien, ceci ou cela. Et si on se rend compte que c'est une substitution de l'expérience, on lui substitue un discours sur l'expérience. Un peu comme un journaliste radiophonique pourrait décrire un lieu dans lequel il se trouve. Mais ça n'a rien à voir avec l'expérience du lieu lui-même. Et là, sans s'en rendre compte, on s'est déplacé vers un commentaire, une description de ce qui se passe. Et il y a moins de disponibilité pour vraiment éprouver. Ça nous tient à distance de l'expérience elle-même. Non pas se battre contre cette description, ce commentaire, mais en prendre conscience. Je donne parfois cet exemple amusant ou attristant. Lorsque je guidais un groupe dans l'Inde du centre, dans la région de Bénarès et de Bodh Gaya, traversant les plaines du Bihar, alors que le riz était verdoyant, c'était magnifique, les gens de mon groupe lisaient le guide sur la région. Vous voyez, c'est extraordinaire. On était dans des très beaux paysages et les gens avaient le nez sur leur guide bleu. Donc on peut aussi être dans l'expérience présente, en train de la décrire plutôt que de la vivre. Là aussi, il ne s'agit pas de se battre, mais simplement de le reconnaître. Il y a un autre aspect, lorsque des images de personnes, où je pense à des personnes. Alors cette image de la personne n'est pas la personne, évidemment. D'une certaine manière, je le sais. Si je pense à une personne, je ne me dis pas, après l'assise, je vais aller boire un café avec elle. Donc je ne suis pas confus. Et pourtant, d'une certaine manière, je pense quand même qu'elle est là vraiment, puisque ça peut me toucher, ça peut m'irriter, au contraire me réjouir ou m'agacer. Il n'y a pas de raison, si vous regardez une photo d'une personne, de s'irriter ou de s'agacer. C'est par rapport à la personne elle-même. Donc lorsqu'on pense à une personne, cette image, il y a l'image de la personne, d'une certaine manière, on pense qu'on a affaire à la personne, alors qu'on n'a affaire qu'à soi-même. Cette image qu'on crée, et ensuite on peut commencer à avoir des arguments. On est un peu comme le ventriloque, on est les deux voix. Non seulement ceci, mais cette personne qu'on imagine, on n'imagine pas neutre. Si la personne que j'imagine, je vais découvrir de l'irritation, c'est que je l'ai imaginée irritante. Je ne l'ai pas imaginée neutre, ensuite, ah ouais, ça m'énerve. Je l'imagine déjà irritante. Ça peut changer, hein. Dans le processus. Je peux tout d'un coup avoir une autre pensée, ah, mais elle est quand même sympa. Là, je passe à une autre représentation, quelqu'un de sympa. Mais c'est quand même, je me la représente à ce moment-là comme sympathique. Je ne réagis pas par rapport à quelque chose de neutre. Je l'imagine d'une manière ou d'une autre. De même, lorsque surgit un désir, j'imagine une personne surgit un désir, je l'imagine évidemment désirable. Je n'imagine pas neutre comme ça, et tout d'un coup, ah ouais, quand même, elle est chouette, il est chouette. Je l'imagine désirable. Et cette représentation que je manifeste. Donc des aspects sous lesquels ma présence ou la conscience se manifeste. Et c'est important, lorsqu'on peut reconnaître ceci, c'est déjà un grand aspect de la sagesse qui se développe. Et quelquefois plus que de ne pas avoir de pensée, et pas avoir de pensée, je suis calme, tranquille, mais j'ai rien compris au sujet de la pensée. Surgissent des pensées et tout d'un coup, je peux les mettre à leur place. Juste une représentation, et je me rends compte qu'elles peuvent surgir sans qu'elles me conditionnent, qu'elles m'enferment. Comme dans la vie quotidienne, parfois surgissent des pensées, je développe ici un savoir, une connaissance extrêmement importante. Ne cherchez pas les pensées, si on n'a pas, si vous êtes tranquillement établi dans la présence corporelle, il n'y a pas de problème, ça vous permet d'approfondir ceci, mais si elles surgissent, avant de revenir à quelque chose de plus simple, peut-être un point d'ancrage, prenez simplement conscience que c'est juste des pensées, pas des objets, une manière dont l'esprit se manifeste. Une manière spécifique. Et les pensées ne surgissent pas que dans l'assise. Parfois, elles surgissent aussi à l'extérieur de l'assise. Le réfectoire est un lieu d'exploration des pensées tellement riche. Comme en voyant une personne ou une autre, une pensée peut surgir, un jugement. Bien, pas bien, je ne sais pas, rapide, agité, calme, tranquille, super, nul. Tout l'éventail des pensées surgissent. Et j'ai l'impression que je vois ceci dans la personne. Cet aspect agité est dans la personne elle-même. C'est comme si je pouvais lire sur elle, sur son front, c'est marqué agité. Sur le front de cette personne, c'est marqué tranquille. Et après, je suis enfermé dans ceci. Alors que je peux me rendre compte que c'est simplement ma pensée qui surgit. Par rapport à cette personne, quelles que soient les circonstances, une pensée surgit agitée, une pensée surgit tranquille, sympathique, irritant. Mais c'est la manière dont je réagis. Ces notions-là n'appartiennent pas à la personne, même si je crois les voir là. Le fait de croire qu'on les voit là, c'est exactement ce qui nous conditionne, nous enferme. Ensuite, on a affaire à une personne agitée. Même si elle apparaît calme constamment, mais c'est une personne agitée, je le sais. C'est comme si je ne pouvais pas avoir confiance lorsqu'elle apparaît calme. Donc prenez conscience de ces pensées qui surgissent à la vue d'une autre personne ou des circonstances, mais qui sont une manière de réagir, un peu comme un miroir réagit par rapport à des choses qui passeraient devant. Donc reconnaissez-les, ça aussi, ça apporte une grande liberté. Il suffit pas de dire ah, c'est juste une pensée, c'est juste moi qui pense, mais le voir. Se rendre compte que cette pensée et cette représentation surgit en moi-même et qu'elle n'a aucun lieu d'existence, qu'elle n'a aucune solidité. Vous voyez, si elle avait de la solidité, chaque pensée que vous pensez dans le réfectoire serait vue par tout le monde. Vous imaginez les dégâts. Donc ce n'est pas le cas. Explorez ces aspects-là. C'est vraiment un espace où la sagesse peut se développer et la liberté. Combien rapidement ces jugements surgissent. Et ce n'est pas, ah, je vais décider que cette personne est agitée, je la vois comme agitée. Ça surgit avec une rapidité immense, quelles qu'en soient les causes ou les circonstances qui font que ce jugement surgisse. Ceci sont des manières de pouvoir intégrer la pensée dans la méditation, de la mettre à sa juste place. Il y a encore d'autres niveaux un peu plus subtils, plus fins, qu'on décrira peut-être par la suite. Mais néanmoins, ces étapes-là sont très importantes. Donc si des pensées surgissent, explorez un peu ces divers aspects. Et si parfois vous avez l'impression que c'est une stratégie pour ne pas être là, bien explorez ceci comme je l'ai décrit hier soir. Sans rien forcer, sans rien vouloir précipiter. On ne peut pas précipiter l'instant, forcer l'instant, il est déjà là. Donc découvrez-le plutôt, de manière détendue.